1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Marie-Ève Malouine, Mickaël Darmon et Philippe Gouillot. Merci à vous les grandes voix d'être ici. Bonsoir à vous, bienvenue. Une demi-heure à passer ensemble pour essayer de comprendre où on va là dans les prochains jours sur cette réforme des retraites. Est-ce qu'on va s'en sortir ? L'exécutif en tout cas s'est montré déterminé aujourd'hui à poursuivre. Écoutons Emmanuel Macron si vous le voulez bien, depuis Bruxelles.
Cette réforme, c'est une réforme de refondation avant toute chose. C'est une réforme de transformation de notre système et qui va donner, je dirais, sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas... je dirais avant toute chose budgétaire. Nous faisons cette transformation, cette refondation, parce que je pense que c'est essentiel pour notre pays. Je pense qu'elle poursuit un travail, quand on regardera les choses avec recul, historique, mené depuis plus de 2 ans et demi par le gouvernement en termes de transformation du pays. Et donc, voilà, tout ça, je crois, rend plus fort notre pays dans la durée. Et je crois que c'est un élément qui redonne de la crédibilité.
Emmanuel Macron depuis Bruxelles au micro d'Adrien Beck pour Europe 1. Il n'avait pas été très prolixe, hein, le président, voire quasiment absent. Hein, quand à Bruxelles, on lui a déjà posé la question hier. Cette fois, il a pris la parole brièvement. Il était effectivement resté très discret. Comment, là, on interprète cette détermination alors que Édouard Philippe négocie au cas par cas dans le même temps ? Marie-Ève Malouine, allons-y.
Il montre qu'il est toujours près du ballon, comme disent des gens dans le gouvernement. Et donc, il suit ça de près et il redonne le sens que cette réforme a pour lui, qui est que c'est une grande réforme de société et pas un marchandage sur des petits points. C'est une réforme importante et le côté technique, les détails, les trucs très compliqués, c'est pour Édouard Philippe. Donc, on a quand même une bonne distinction entre le président de la République qui fixe le cap, qui donne les grands dessins, et puis le Premier ministre qui est dans l'exécution. Et donc Emmanuel Macron prend sa distance de président.
France ouvrière Yves Verrier a réagi. Le président a tendance à faire l'histoire avant qu'elle ne soit déroulée. Moi, je pense qu'il faut éviter une erreur historique. Le fait que le président, comme ça, se mêle, mais de manière comme ça, très épisodique, très ponctuelle du dossier, ça va pas calmer les esprits, si ?
Non, ça va sans doute pas calmer. Cela dit, je trouve que son ton est assez modeste, presque. Enfin, il n'est pas du tout flamboyant comme d'habitude. Là, il n'y a aucune arrogance dans ses propos. Et puis, encore une fois, c'est quand même vers lui que les gens se tournent, que les Français. C'est de lui que des Français attendent un geste, une inflexion, une décision. Édouard Philippe pourra dire et faire tout ce qu'il veut si on a le sentiment que Emmanuel Macron est opposé à ce que propose, puisque c'était le terme d'Emmanuel Macron hier, ce que propose son Premier ministre, ça ne marchera pas. Les Français se tournent toujours vers lui, comme au moment des Gilets jaunes.
Mickaël Darmon.
Moi, je pense d'abord il se mêle pas de manière épisodique. Vous savez, le pays est globalement dirigé par 3 personnes. Hein. Emmanuel Macron, M. Ribadeau Dumas, directeur de cabinet de Matignon, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée.
On peut bien imaginer,
bien évidemment. Enfin, franchement, tous les arbitrages sont faits là.
Oui, bien sûr.
Avec Édouard
Philippe.
En tout cas, il intervient. Enfin, il intervient, vous avez raison.
Franchement, tel qu'on le connaît, évidemment, il y a un texto toutes les 30 secondes là où il est, à Bruxelles, pour savoir comment ça se passe et les retours qu'il fait. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'hier, il arrive à Bruxelles en disant « je ne parlerai pas ».
Exactement.
Et aujourd'hui, comme d'habitude, il commente toujours la politique intérieure à l'étranger, comme d'habitude. En l'occurrence, Bruxelles, c'est pas l'étranger, mais disons hors du territoire strictement français. Et là, une fois de plus, il le fait parce qu'il sent qu'il doit aussi décliquer la crispation liée à la mécanique. Or, la mécanique, elle a repris. Les partenaires sociaux actuellement sont en train de travailler sur des mesures pour trouver l'équilibre. Parce que l'enjeu aujourd'hui, à partir de maintenant, il est de trouver un équilibre sur l'âge d'équilibre, je dirais. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver ce système-là. Et les partenaires sociaux sont en train d'y travailler puisque tout le monde a dit, en tout cas du côté des réformistes, avec lequel le gouvernement travaille, on va reprendre et on a repris le chemin du dialogue.
Ouais, et le plus tôt possible, ils sont conviés, les partenaires sociaux, autour d'Edouard Philippe en début de semaine. On s'en parle dans un instant, restez avec nous.
Votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix et Nathalie Lévy sur Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Marie-Ève Malouine, Michaël Darmon et Philippe Gouillot, ancien correspondant pour l'AFP et le Figaro à l'Élysée.
Alors voilà, on va discuter la semaine prochaine, la CFDT, la CFTC, l'UNSA, les syndicats dits réformateurs. Mais il y aura dans la rue du monde, mardi très probablement, nouvelle journée de mobilisation. Comment ça peut se passer? Ça va être des mesures catégorielles. Les policiers, on les a vus, ils sont rentrés dans le rang hier. Là, à l'heure où on parle, c'est à Nancy qu'Edouard Philippe s'adresse aux enseignants, avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. On tend vers ça? Allez, Michaël Darmon, pour commencer. Allez.
Parce qu'en fait, en parallèle, vous avez aussi la mise en place du système universel. Absolument. Donc, de ce point de vue-là, il y a des professions qui attendent et qui peuvent profiter aussi, peut-être, on verra, de la réforme avec la manière d'être revalorisée dans leur traitement. On va voir si les enseignants sortent satisfaits. Eh bien, sont aussi traités par leur ministre de tutelle. On a vu que les policiers suspendent en attendant de recevoir effectivement par écrit les promesses qui ont été faites. Donc, pour l'instant, il y a deux processus parallèles. Vous avez la mise en place du système universel et puis les discussions qui achoppent sur ce fameux H-pivot et la manière de ou pas mettre le système à l'équilibre. Moi, ce qui me frappe également, c'est que Laurent Berger a évolué aussi dans la manière dont il avait était très colère dès l'après-discours d'Edouard Philippe, pour le lendemain commencer à dire « je ne suis pas pour le retrait du projet, il faut négocier, travailler, trouver des manières d'aller sur le sujet économique » et de dire ensuite aujourd'hui « je reprends le chemin du dialogue ». On verra si ça va aboutir.
Si ça va aboutir, Philippe Gouillot.
C'est pas non plus une position très facile pour Laurent Berger quand même, parce que fondamentalement il est favorable, et la CFDT est favorable à cette réforme, et là il va battre le pavé mardi avec des gens qui la refusent et veulent son retrait définitif. Donc c'est une position dangereuse pour lui, parce qu'il ne doit pas non plus se couper de sa base. Donc il faut sans doute que mardi il puisse dire, ben voyez, on a manifesté contre le projet dans sa version actuelle, mais on a obtenu des avancées et maintenant on peut effectivement revenir à une position beaucoup moins critique.
Oui, parce que l'UNSA, CFT, je ne sais plus si je l'ai dit, la CFTC, la CFDT seront dans la rue, ces syndicats directeurs seront dans la rue.
Il y a un front uni de tous les syndicats, y compris ceux qu'on n'attend pas forcément, c'est-à-dire la CFDT, mais aussi la CFE-CGC et la CFTC. Donc, il y a beaucoup de monde qui est contre cette réforme, mais c'est vrai que Laurent Berger est celui qui a presque le plus à perdre, parce que c'est le syndicat réformiste qui est devenu premier syndicat devant la CGT, parce que justement, il négocie. Et là, il sait que s'il passe complètement de l'autre côté, la réforme se fera sans lui. Or, c'est ça, la réforme de sa centrale syndicale. Et il y a un jeu où chacun est au pied du mur, en fait, parce que la CGT, elle a perdu des voix dans les élections. Elle est menacée par Sud aussi, dans certains bastions. Donc, son truc, c'est de dire de ne pas céder et de ne pas rentrer dans le jeu. Donc, la CGT, elle ira jusqu'au bout aussi. Et tout va se focaliser sur la SNCF, parce que les autres, les policiers, les pompiers, les aides-soignants dans les hôpitaux, on va trouver quelque chose pour eux. Mais on a bien compris clairement que sur la SNCF, la RATP, le gouvernement ne cédera pas et il est prêt au bras de fer avec la CGT.
Mais est-ce qu'ils peuvent tenir longtemps, Michaël Darmon, à la SNCF, parce que ça coûte cher, une journée de grève? Il y a une cagnotte, on le sait, mais jusqu'où? Il y a peut-être un moment où ça va continuer. Ils avaient déjà fait un mois de grève à la SNCF.
C'était mal terminé du point de vue, avec un mauvais souvenir en tout cas, puisqu'ils avaient le sentiment. Et à mon avis, c'est ce qui génère aussi la motivation et la détermination dans ce présent conflit, c'est qu'il y a le souvenir d'une frustration et d'un précédent conflit. On est aussi un an après les Gilets jaunes. Et indubitablement, la base syndicale est influencée aussi par ce qui s'est passé. Donc, il y a des raisons objectives qui expliquent la détermination et qui expliquent également pourquoi ça ne peut pas durer non plus ad vitam aeternam. D'autant plus que sur l'ensemble du pays, il faut aussi le constater, le pays n'est pas bloqué. C'est l'Île-de-France. De par ce qui se passe à la RATP. La SNCF, effectivement, empêche de se déplacer dans l'ensemble du pays, mais le pays n'est pas bloqué. Dans les entreprises privées, il n'y a pas de débrayage. La CFDT n'appelle pas au débrayage dans l'entreprise privée. Et ça, c'est très important. Ça montre à quel point ce syndicat réformiste, effectivement, joue une partie très importante et reste quand même sur le rail peut-être ténue parfois, de la négociation et de la discussion. Et pour montrer qu'il n'y a pas de volonté de bloquer le pays à l'encontre de la CGT qui essaye d'étendre avec l'énergie, par exemple. Ouais. On est moins sûr du côté de Marie-Ève quand même,
parce qu'on est à moins de 15 jours de Noël. Est-ce que la CGT tiendra jusqu'à Noël? Tout l'enjeu étant de dire, c'est pas de notre faute, c'est le gouvernement qui a... Et il y a les commerçants aussi qui sont quand même assez embêtés. Ce sera de dire qui est responsable de ce blocage.
Pour l'instant, suivant les reportages, c'est un peu 50-50. On n'entend pas beaucoup dire.
Il y a des sondages qui disent quand même que pour les gens, c'est le gouvernement. Il y a des sondages qui sont sortis comme ça.
Mais ça reste.
Et donc à Noël, ça va être compliqué. Mais
dans sa majorité. Et dans sa majorité, tiens, qu'est-ce qui va se passer à Emmanuel Macron? Parce que dans son propre camp, comment va-t-on se diviser? Est-ce qu'on est en train déjà de se diviser autour de cette réforme des retraites, la manière dont elle est menée, amenée, etc. On en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Marie-Ève Malouine, Mickaël Darmon et Philippe Gouillot, qui est co-auteur des photos insolites de Charles de Gaulle, paru aux éditions Groundplomb.
Et on est avec Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux grandes voix.
Merci Jean-Claude de vous nous appeler ce soir de Brive. Vous êtes postier, hein, vous êtes postier syndiqué.
Sud,
voilà. Et qu'est-ce que vous nous dites ce soir, après 9 jours de grève?
Moi, ce que je remarque une chose au niveau de ce problème de retraite, c'est que le président Macron gouverne par la brutalité. En imposant des choses
Il avait prévenu sur cette réforme, Jean-Claude.
Oui, mais pas obligé de tout casser.
C'est-à-dire ?
C'est ce qui se passe. Quelle que soit la réforme qui se dessine, on casse tout là, avec le président Macron. On n'y va pas dans la douceur.
Donc vous êtes gréviste en ce moment ?
Oui.
Et vous allez pouvoir tenir comme ça, durablement ? Vous comptez aller jusqu'à Noël ?
Oui, je pense, oui. Oui.
Vous en avez la possibilité aussi financièrement? Parce que ça coûte aussi.
Oui, on est organisé.
Vous êtes organisé, c'est ça. C'est la fameuse cagnotte hein, qui permet
absolument.
Aussi.
Voilà.
Merci Jean-Claude. On voit cette détermination. Jean-Claude qui nous appelait de Brive ce soir. La détermination à la CGT, là, syndiqué Sud, postier, Jean-Claude. On voit bien que le bras de fer, il est loin d'être terminé. Et Emmanuel Macron, dans tout ça, Emmanuel Macron, il risque aussi peut-être d'entamer un bras de fer avec sa majorité. Philippe Gouillot.
Avec la majorité, peut-être. Pour l'instant, on ne la sent pas très pour remontée. Ouais. Pour l'instant. Mmh. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'ils sont assez solidaires. Avec, évidemment, sans doute, des états d'âme. Ça, c'est forcé. Mais il y a aussi la bataille avec l'opinion, quand même. Parce qu'on approche de Noël. On l'a dit, les commerçants commencent vraiment à s'inquiéter terriblement parce que beaucoup de magasins sont vides. Les gens n'achètent pas. Ils ont déjà eu des problèmes l'année dernière au moment des Gilets jaunes, notamment à Paris et dans les grandes villes où les magasins étaient cassés souvent et où les gens n'allaient pas faire leurs courses. Donc ça fait une deuxième période de Noël où le chiffre d'affaires risque de baisser. Et puis l'opinion publique, si on nous dit mardi, puisque c'est mardi que la SNCF va faire savoir si
annoncera quels trains vont pouvoir circuler.
Quels trains marcheront, quels trains rouleront pour la fin d'année. Si on nous dit qu'on ne peut pas aller en province ou de province venir à Paris, ça risque quand même de...
De tendre un peu plus. Quand même, je reviens à la majorité.
C'est une bataille d'opinion.
On a parlé de l'opinion, mais la majorité parlementaire, Mickaël Darmon, quand même, elle comptait sur cet acte 2, sur cette jambe gauche.
Oui, effectivement.
Là, cette réforme des retraites est faite comme ça.
J'ai parlé avec quelques personnes qui sont un peu emblématiques de ce qu'on appelle le pôle gauche de la Macronie, notamment dans ce groupe de députés qui s'appelle le collectif social. Il y a effectivement un émoi, c'est vrai. Mais pour une raison qui nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'ils considèrent que l'urgence est vraiment de réembarquer la CFDT dans la réforme, parce qu'ils considèrent que sans la CFDT, il n'y aura pas d'acceptabilité, pour faire vite, dans la société et dans la capacité à pouvoir faire installer la réforme. Donc là, c'est plutôt leur inquiétude. Mais force est comme de constater, effectivement, comme dit Philippe, qu'il y a des états d'âme, il y a des émois dans ce périmètre-là de la majorité, mais que globalement, il y a quand même un soutien parce que sur les marchés, on dit, plusieurs députés nous ont dit, sur les marchés, dans les circonscriptions, on nous dit, tenez bon. L'ensemble du secteur privé se sent concerné également par cette réforme des retraites et souvent considère qu'il n'y perd pas forcément. Les femmes considèrent qu'il y a un progrès. Les agriculteurs considèrent qu'il y a un progrès.
Il y a deux lectures.
Il faut regarder.
Il y a surtout une lecture dans cette
Il y a surtout une lecture globale. La société, avec tout le respect, comme on disait encore hier, ne se résume pas à la SNCF et à la RATP.
Marie-Ève Malouine.
Oui, il faut se souvenir que la réforme du régime par points, ça vient de la gauche, ça venait de Michel Rocard. C'est la CFDT qui n'est pas un syndicat qui est situé plutôt sur la droite de l'échiquier. Donc, l'aile gauche de la majorité, elle peut se reconnaître là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'elle est attentive à Laurent Berger et à la CFDT. Elle est un petit peu spectatrice, mais elle a quand même des arguments pour dire cette réforme, elle crée plus de justice sur le plan social. Donc un député, quand il peut aller voir ses électeurs en leur tenant un discours positif, ça soulage toujours énormément. Et de l'autre côté, l'aile droite, elle peut dire aussi, regardez, le gouvernement est ferme, il reste sur l'enjeu financier, et ça, il ne cédera pas auprès de la CFDT, il est ferme sur le financement. Donc les deux jambes peuvent marcher sur
le pied. Ce qui est intéressant, c'est que un député me disait cet après-midi, j'ai beaucoup remarqué, alors issu de ce pôle gauche de la Macronie, j'ai beaucoup remarqué comment Édouard Philippe, dans son discours, a plusieurs fois prononcé le mot solidarité. Et donc ça, effectivement, ils y sont sensibles. Et ils retrouvent peut-être pour la première fois, et avec un Édouard Philippe avec lequel ils ont eu des relations compliquées. Donc on a une autre mutation qui est peut-être une sorte de retour un peu en grâce, je dirais, d'un Édouard Philippe qui revient et qui est un peu plus écouté par cette aile gauche de la Macronie avec laquelle il était un peu plus en problème depuis le début du mandat.
Avec la référence à
Madame France.
Exactement.
Et ça n'a échappé à personne.
Et puis dans la petite musique. Évidemment destiné à cette frange-là de la majorité.
Entendu. Et avec une petite musique au sein du gouvernement et qui diffuse auprès de la majorité aussi, qui est de dire, on n'est pas en rapport de force avec un tel ou un tel. C'est pas l'idée. Il n'y aura pas un vainqueur et des perdants.
Voilà, c'est ça. Pas dans la confrontation.
Et tous les ministres le relaient aussi. Mais c'est ce qu'il y avait aussi dans le discours d'Edouard Philippe. Il a désigné personne comme l'ennemi ou celui qui n'a rien compris.
Mais c'est gagnant-gagnant. En fait, cette majorité parlementaire plus à gauche qui, de toute évidence, n'est pas pour l'instant tendue. Le socle qu'Emmanuel Macron veut garder ses électeurs de droite qui sont satisfaits par cette réforme.
Mais ça
pour l'instant, le compte y est presque.
Non, mais c'est-à-dire que quand on regarde avec recul ce que d'ailleurs vous nous donnez la possibilité de faire, donc c'est plutôt merci, c'est plutôt intéressant de prendre le temps et de regarder, de sortir au fond de ce qui se passe minute par minute.
Voilà.
On voit bien que la situation est plus complexe. Et donc peut-être
c'est
moins
plus subtil, c'est plus subtil que ça.
Qu'on peut être présenté par les syndicats et c'est normal, ils font leur travail.
Évidemment,
les syndicats
on est passé de quelque chose qui était qu'est-ce que c'est que cette méthode, ça n'avance pas, on n'en veut pas, à c'est compliqué. Donc quand on dit que c'est compliqué, c'est que déjà on veut essayer de comprendre. Et donc c'est une petite avancée. Après reste l'enjeu par rapport à l'opinion. Si le pays est bloqué, la faute à qui? Et on fera le film de savoir si il était nécessaire d'en passer par des mois d'attente depuis la rentrée pour en arriver là au mois de décembre. Parce que les commerçants, ils sont au-delà de la crainte. Hein. Ils sont en plein dedans.
Et
pour conclure, Philippe.
Ça pourrait être gagnant-gagnant, mais ça peut être aussi perdant-perdant. Et puis, il y a un autre obstacle aussi, malgré tout, c'est que là, on n'est pas entré dans la phase législative. Donc, le projet, une fois qu'il sera présenté, examiné en Conseil des ministres, ça revient à l'Assemblée nationale.
Oui, mais ça, c'est juste avant les municipales. Que fera la droite à ce
Exactement.
Moment-là.
Et ça, ce sera juste avant les municipales.
Absolument.
Et ça, on en parlera la semaine prochaine.
Absolument.
Les grands points. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À suivre, Nathalie Lévy.
On reste ensemble, le journal de 19h de Isabelle Millet, à la une de l'actualité ce soir. La SNCF, elle promet des trains garantis pour Noël, pour vous.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.